RTL Soir, 18h, 20h,
avec Christophe Ondelat.
Éric Ciotti, on s'est donné une heure pour mieux vous connaître, puisqu'il se dit que vous êtes l'homme qui monte à l'UMP, en charge notamment depuis un peu plus d'un an des questions de sécurité. On peut dire que ce soir vous êtes l'homme qui tombe à pic, puisque le sarkozysme sécuritaire en prend plein la figure dans l'affaire des expulsions de Rome, de la part de la gauche, bon ça c'est assez normal, mais aussi d'une partie de la droite. Vous avez entendu, je suppose, Dominique de Villepin ce matin sur RTL,
Bien sûr, dire que
cette décision était indigne, inefficace et dangereuse.
Pathétique. C'est pathétique. C'est la réaction d'un homme qui aujourd'hui, parce qu'il n'est plus dans l'action, se livre à une surenchère dans l'outrance. J'ai ce sentiment que pour se faire entendre, parce qu'il n'a pas grand-chose à dire, M. Villepin force le trait. Mais quand même, c'est pas une oie blanche tombée du nid, M. Villepin. Je rappellerai un chiffre. Il a été ministre de l'Intérieur, il a été Premier ministre depuis 2005. Vous savez combien de Roms ont été expulsés, à la fois lorsque M. de Villepin était ministre de l'Intérieur et lorsqu'il était Premier ministre? Plus de 10 000. Donc, je trouve aujourd'hui sa sortie purement démagogique.
Mais alors, disons,
et scandaleuse.
Peut-être que c'est le signe qu'on ne vous reproche pas d'expulser des Roms. Ce qu'on vous reproche, c'est de le dire. J'ai envie de dire de focaliser l'attention là-dessus.
Je crois
de mettre le doigt sur une communauté. C'est peut-être ça qui vous reproche, pas tellement de les expulser.
Non, je crois que ce débat est tronqué. Aujourd'hui, est-ce que dans l'action du gouvernement, dans l'action conduite par le Premier ministre, par le ministre de l'Intérieur, sous l'impulsion du président de la République, est-ce qu'une décision est illégale ? Est-ce qu'une décision contrevient au droit français ou au droit européen ? Non, absolument pas. On est dans le strict respect des règlements, des conventions européennes et de la législation. Ce qui est scandaleux dans cette affaire, c'est l'attitude, je dirais, de l'Union européenne ou de la Roumanie. Et demain, bien sûr, les ministres roumains seront à Paris. C'est un rendez-vous important parce que quand même, quelle est la situation ? Ce qui est scandaleux, c'est le fait que l'Union européenne verse des aides à la Roumanie qui a rejoint l'Union européenne depuis 2004 pour intégrer notamment les populations roms. Alors bien sûr, aujourd'hui, on nous dit qu'il y a la libre circulation. C'est un principe important auquel on adhère, mais il faut rappeler ses devoirs et ses obligations à la Roumanie. Et puis, quand même, je voudrais, dans ce débat, appeler un peu de sérénité. On dirait que notre pays n'est plus en démocratie, n'est plus une république. Or, la France est une grande démocratie, c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays qui accueille le plus de réfugiés, de demandeurs d'asile, après les États-Unis au monde. Elle offre à ces demandeurs d'asile des revenus, un hébergement. Elle offre à ces Roms aussi des allocations de retour. Donc je dirais que toutes les garanties sont offertes. Nous sommes un pays de droit. Et ceux qui laissent croire à des fins démagogiques qu'on outrepasse le droit, aujourd'hui se trompent. Ils portent atteinte à notre pays. Je crois qu'on a le droit de débattre, bien sûr, d'être opposé, c'est normal, c'est la règle de la démocratie. Que le Parti Socialiste ne soit pas d'accord, c'est normal. Que quelques élus très minoritaires, là aussi à droite, ne le soient pas, fassent entendre leur voix. Là encore, c'est légitime, mais de grâce, comme l'a dit tout à l'heure Brice Hortefeux, qu'on n'appelle pas au secours d'une argumentation indigente des mots qui ont une connotation, qui sont chargés d'histoire. Il y a des gens qui ont souffert. On n'est pas dans une période sombre de notre histoire. On est dans une démocratie, dans une république. Le président de la République est investi par le suffrage universel. Il a eu 19 millions de suffrages. Et ce qu'on fait aujourd'hui, on l'a dit lors des élections présidentielles. Moi, c'est conforme à mon programme électoral. Je suis député de la majorité. Ma profession de foi, elle portait sur ces mesures. Le président de la République l'a dit, on ne trahit pas les Français. Au contraire, on est dans la fidélité au message qui a été porté au printemps 2007 et pour lequel les Français nous ont mandatés. On est dans la vérité, on est dans l'action. D'autres sont dans le commentaire.
On se reparle tout à l'heure, Éric Ciotti. Éric Ciotti, vous êtes, je le redis, l'invité qui tombe à pic puisque vous êtes le monsieur sécurité de l'UMP, par ailleurs député des Alpes-Maritimes et président du Conseil général des mêmes Alpes-Maritimes. Et j'ajoute, pour être complet, éminence grise, dit-on, du ministre Estrosi et ami proche du ministre Hortefeux. On vous dit d'ailleurs intégralement sarkozyste. Intégralement sarkozyste, la formule vous plaît ?
Oui, je l'assume, je la revendique. Je suis un fidèle du président de la République, comme tous les députés. Je dis bien comme tous les députés élus au printemps 2007. nous avons été élus derrière Nicolas Sarkozy avec le projet porté par Nicolas Sarkozy, et je le dis avec beaucoup d'humilité, si nous avons été élus députés dans la majorité, en tout cas si je l'ai été, c'est parce qu'il y a eu cet élan apporté, insufflé par Nicolas Sarkozy, cet espoir qui a été levé.
Mais ça, ça voudrait dire
2007.
Que c'est tout le monde parle d'une même voix, pas de tête qui dépasse, hein ?
Non, pas du tout. Moi, je suis le président de la République depuis une vingtaine d'années. Je suis Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il a donné à notre pays un nouvel élan. Aujourd'hui, je suis choqué par les critiques dont il fait l'objet. Je crois que jamais un président de la République n'avait subi un tel feu roulant, de telles attaques, des attaques personnelles même, des attaques physiques. On est dans l'outrance et quelque part, ça me choque et j'ai envie de dire stop. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, on a un président de la République qui nous a donné une impulsion forte pendant la crise économique, qui a été à la hauteur dans le concert des nations internationales, qui a pris des initiatives qui ont été suivies par toutes les nations.
Vous êtes en train de prouver que vous êtes vraiment 100% Sarkozy.
Oui, il a donné une nouvelle impulsion, il a cassé les lignes, et c'est le président de la vérité, de la transparence, c'est peut-être pour ça qu'on l'attaque autant, parce qu'avant, ses prédécesseurs étaient plus dans le confidentiel, dans le secret. Lui, il dit tout, mais il agit aussi, c'est
alors,
ça qui change.
Je voudrais revenir sur une partie des propos de Dominique de Villepin, dont on vient de rediffuser d'ailleurs un extrait. Il dit entre autres, les expulsions de Rome, c'est pas ça la droite, c'est pas ça la droite française. Moi, ce que j'entends là-dedans, c'est qu'il vous met un peu, vous et les sarkozistes, au fond, à la droite de la droite, presque à l'extrême droite. C'est ça qu'il dit.
J'ai pas envie de polémiquer avec Monsieur de Villepin. Je crois que Monsieur de Villepin n'a qu'une aspiration, c'est de retourner dans le jeu politique dont il s'est exclu. Il a une haine personnelle contre Nicolas Sarkozy. Et la haine n'est jamais bonne conseillère en politique. Diriger un pays nécessite du sang-froid, nécessite de la tolérance, et lui, il est dans la vengeance, il est dans la haine. Je disais tout à l'heure, quand il était Premier ministre, il a lui-même conduit plusieurs milliers d'expulsions de Rome, et c'était normal, c'est légitime. Un Premier ministre, un ministre de l'Intérieur, doit appliquer la loi de la République, et il doit veiller à ce que partout, il y ait un équilibre entre droit et devoir pour les ressortissants nationaux, pour les étrangers aussi. Donc, je crois qu'aujourd'hui, Dominique de Villepin franchit une escalade, un degré dans l'échelle de l'outrance qui me choque.
Est-ce que c'est pas le signe, au fond, tout ça, qu'il y a deux droites ? Chose qui avait été effacée par la création de l'UMP, une droite un peu musclée, et puis une droite dite sociale. Ça a toujours existé, ça.
L'UMP, c'est un rassemblement. C'est le rassemblement des centristes, des libéraux, des gaullistes. Le RPR, l'UDF et le Parti Républicain qui se sont, en 2002, réunis, rassemblés. Alors, bien sûr, il y a des voix qui sont pas divergentes, qui sont différentes, mais notre force a toujours été justement de nous unir, de nous rassembler. Je crois que Dominique de Villepin, manifestement, qui a créé lui-même une petite formation politique avec 3-4 députés, se situe déjà un peu à l'extérieur de cette famille. Le débat...
Ah, il se situe là où se situait Philippe Séguin ?
Non, pas du tout. Philippe Séguin a toujours été une voix gaulliste très forte.
Vous croyez pas que Séguin, là, s'il était vivant, et s'il avait eu la liberté d'expression, n'aurait pas tapé dans le même sens que Villepin ?
Absolument pas. Philippe Séguin, oui. Pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, était un républicain et jamais il n'aurait galvaudé les mots que galvaude aujourd'hui Dominique de Villepin.
Parce qu'il a parlé du drapeau.
Comme l'a dit Brice Hortefeux, le drapeau, faire référence à la Seconde Guerre mondiale, c'est faire référence à des drames. On n'est pas dans cette situation. Notre pays est une belle et grande démocratie.
Pour veiller
à cette démocratie, il faut qu'il y ait un équilibre entre droit et devoir. C'est ce que fait le gouvernement, rien d'autre.
Alors pour continuer un peu le portrait, vous avez été le rapporteur de la loi qui permet désormais de suspendre les allocations familiales des parents de mineurs délinquants, et vous préparez là, à la demande du président de la République, un deuxième texte qui va plus loin puisqu'il prévoit de la prison pour les parents de mineurs délinquants. Vous pouvez nous en dire plus ? Dans quelles conditions un parent de mineur délinquant pourra-t-il aller en prison ?
Alors, une petite précision. Le premier texte était pour lutter contre l'absentéisme scolaire. Mmh. La suspension des allocations familiales sanctionnera l'absentéisme scolaire qui est un fléau. Ce texte a été voté à l'Assemblée nationale et j'en ai été l'auteur et le rapporteur. Ce sur quoi je travaille avec d'autres députés, c'est la question de la responsabilité pénale parentale pour lutter contre la délinquance des mineurs. Là aussi, on a entendu beaucoup de caricatures, beaucoup d'outrances. On dit « je veux mettre les parents des mineurs délinquants en prison ». Non, je veux faire en sorte qu'aujourd'hui, nous nous attaquions à ce fléau. 70 000 mineurs délinquants dans les années 80, 210 000 l'année dernière. Trois fois plus, ça touche des jeunes beaucoup plus tôt, avec des faits beaucoup plus graves. Il y a des filles aujourd'hui, une féminisation. Donc il faut lutter parce qu'un gamin de 12 ans qui commence à caillasser un bus au milieu de la nuit, quel avenir pour lui dans la vie active ? Donc il faut lutter et on ne peut pas dire que cette lutte doit être l'affaire uniquement de l'État ou de l'éducation nationale. Il faut que les parents soient impliqués. Ce qu'on fait, ce qu'on propose, c'est un plan de prévention, d'accompagnement. Moi, je demande qu'on mette en place, chaque fois qu'un mineur est condamné, qu'on l'accompagne avec une ordonnance de probation édictée par un juge.
Une sorte de pacte avec sa famille.
Avec la famille, c'est cette notion de contrat. Vous savez,
t'as fait une bêtise, on te redonne une deuxième chance, mais il y a un contrat.
C'est mis en place en Grande-Bretagne, au Canada. Ce ne sont pas quand même des pays où les valeurs de liberté ne sont pas en place.
Et c'est s'ils ne respectent pas le contrat que les parents vont en prison.
Voilà, ils ne seraient pas en prison, ils pourraient être condamnés. Pourquoi on a parlé de la prison ? Parce qu'on fait référence à un article du Code pénal qui existe aujourd'hui. Cet article, tous les Français le connaissent sans le savoir, parce que quand on se marie, le maire lit un article du Code civil qui dit que chaque parent a un devoir d'éducation, de santé, de sécurité envers ses enfants. Et si on ne respecte pas ces devoirs de santé, d'éducation, il y a un article du Code pénal qui dit qu'il peut y avoir 30 000 euros d'amende et 2 ans de prison. Donc on n'invente rien, on a rattaché justement le fait de suivre cette ordonnance qui accompagnera les mineurs.
Allez, Éric Ciotti,
là,
d'accord.
On est encore dans l'outrance.
On a compris. On met, mettons que cela arrive au terme du vote de cette loi et que un certain nombre de parents finissent par aller en prison pour ne pas avoir, au fond, tenu leurs engagements de parents à l'égard de leurs enfants. Ça va résoudre quoi que les parents soient en prison ? Le gamin, il sera toujours dehors, il fera toujours des conneries et ça ne changera rien au bénéfice de la société, oui ou non ?
Alors, d'abord, la sanction, elle sera mise en place par un juge. Et je fais confiance au discernement du juge. Le juge, il va pas mettre en prison une maman isolée. Il va d'abord regarder ce qui se passe. Il y a des cas où on a quelquefois, vous savez, des gamins qui sont arrêtés, interpellés 15, 20, 30 fois. 30 fois. Ça veut dire qu'à un moment, il y a abandon. Alors, soit la famille est en difficulté. Et il faut l'aider, il faut l'accompagner. C'est ce que je fais en tant que président du Conseil général. J'ai mis en place des contrats avec des familles en difficulté. On les accompagne, on a mis en place une école des parents. Donc, je suis pas dans le sécuritaire, dans la sanction absolue. Il faut qu'il y ait un équilibre. Et quelquefois, il y a des cas, pourquoi on s'interdirait de sanctionner ? Moi, je crois...
Mais c'est des cas isolés, on est d'accord.
C'est des cas isolés, bien sûr, mais il faut qu'il y ait ce contrat. Moi, ce que je crois, c'est à cette notion de contrat entre la société et la famille. Il faut que la famille soit replacée au cœur de la lutte contre la délinquance des mineurs. Je crois beaucoup à ce pacte, comme vous l'évoquiez.
Alors pourquoi menacer de prison si ça concerne quelques cas isolés ?
Parce que c'est simplement un article qui existe du Code pénal. Mais les juges l'utiliseront à bon escient. Il y a des amendes, ça va être gradué. Mais dans certains cas, je lisais ce matin dans Libération, une magistrate juge des enfants qui contestait ce dispositif, mais qui disait « j'ai une famille où ça pourrait être appliqué ». Donc il ne faut rien s'interdire. Moi je crois à l'exemplarité de la sanction, à la capacité dissuasive de la sanction. Quelque part, pour moi, la sanction, c'est une arme de dissuasion. Elle ne doit peut-être pas être appliquée, mais la crainte qu'elle soit appliquée va remettre sur le droit chemin certaines familles. Je l'ai vécu dans mon département. Je dis ça pas pour des raisons idéologiques, parce que concrètement, sur le terrain, je l'ai pratiqué. Sur la question de l'absentéisme, dès qu'on a menacé de suspendre les allocations familiales, eh bien, les parents sont revenus à un meilleur comportement et ont pris en charge leur gamin. Donc, je crois en ce contrat, je crois en l'équilibre entre prévention et crainte de la sanction.
On va marquer une pause.
RTL Soir.
Avec Christophe Ondelat jusqu'à 20h sur RTL.
Éric Ciotti, vous êtes avec nous depuis 18h. Je rappelle que vous êtes l'homme qui monte à l'UMP, secrétaire national en charge de la sécurité, proche de Christian Estrosi, qui est, dit-on, votre mentor, de Brice Hortefeux, dont vous êtes l'ami. Vous avez défendu la loi qui suspend les allocations familiales, on vient d'en parler, des parents des jeunes qui sèchent les cours. Vous préparez un texte qui pourra envoyer en prison les parents des enfants délinquants si leurs enfants condamnés ne reviennent pas dans le droit chemin. Un mot sur votre relation avec Christian Estrosi, le ministre de l'Industrie et maire de Nice. Vous avez été d'abord très jeune, à 24 ans, je crois, son attaché parlementaire, puis son chef de cabinet au Conseil général, avant qu'il vous offre un siège de député. On vous dit fusionnel tous les deux. Ça veut dire quoi, fusionnel ?
C'est une relation d'amitié. C'est rare en politique, et c'est une belle relation d'amitié. Aujourd'hui, Christian Estrosi est le maire de Nice, 5e ville de France. J'en suis le député, le président du Conseil général, et on travaille au quotidien ensemble.
Vous appelez tous les jours, il paraît 4-5 fois.
Comme on le fait depuis 22 ans.
Il y a une expression que j'adore, c'est un opposant qui dit, concernant votre relation, quand l'un se pince, l'autre a mal.
C'est un peu ça, c'est pas faux.
Donc, qui va tuer le père ? Parce qu'à un moment donné, c'est très beau tout ça, les amis de 30 ans, mais ça dure pas en politique.
On démontrera que ça durera.
Vous vous y engagez ?
Absolument.
Vous savez que c'est enregistré, hein ?
Absolument,
le ressortira.
Absolument, vous pouvez le ressortir.
Vous êtes catholique, Éric Ciotti ?
Oui.
Vous savez pourquoi je vous pose la question ?
Je l'imagine.
Parce que le tournant sécuritaire du gouvernement, et notamment l'affaire des Roms, est vivement critiqué par l'Église catholique. Le cardinal 23 a demandé à rencontrer Brice Hortefeux. Le pape lui-même a adressé un message en français sur ce thème-là. Vous dites quoi en tant que catholique ? Cause toujours, tu m'intéresses ?
Non, d'abord, je crois qu'il y a une surinterprétation de ce qu'a dit le pape. Moi, je n'ai rien à reprocher au message de fraternité, de générosité qu'a prononcé le pape dimanche. Il a dit, il faut accueillir toutes les personnes qui en ont besoin. C'est ce que fait notre pays, je le rappelais tout à l'heure, premier pays en matière de droit d'asile. Donc la France a une tradition d'accueil, de générosité, et je pense qu'il faut le rappeler, c'est ce que veut faire Brice Hortefeux. C'est Brice Hortefeux qui a demandé à voir le cardinal 23, il va le faire dans quelques jours, pour dire que ce qui est en place aujourd'hui, ce n'est simplement que l'application de la loi de la République. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on reproche au gouvernement...
Donc l'Église s'est plantée son analyse.
J'entends son message de générosité, elle est dans son rôle, mais en même temps, je crois que la meilleure preuve de générosité, c'est de faire respecter l'équilibre entre droit et devoir. Il faut qu'à un moment, on dise notre pays, c'est pas moi qui l'ai dit, et avant nous, c'est Michel Rocard, ne peut pas accueillir toute la misère du monde, parce que si on laisse les portes ouvertes, on va aujourd'hui lancer un message à tous ceux qui sont dans la détresse. Il y en a malheureusement dans l'Union européenne, c'est ce qui me choque, que l'Union européenne, puissance mondiale, riche, et encore des gens en situation de détresse, 9 millions de Roms, c'est ça qu'il faut régler chez nous. Mais il y a l'immigration de l'Afrique subsaharienne, et ça, il faut régler ce problème à l'origine, à la source, parce que notre pays, il faut le dire très clairement, ne peut et ne pourra accueillir toutes ces personnes. Et si on laisse croire, justement, comme le font les socialistes, comme le font certaines bonnes âmes qui, aujourd'hui, se drapent dans ce message de générosité, c'est un message trompeur, parce qu'on va attirer des gens, et on sait très bien que notre pays n'a pas la capacité de leur offrir un travail, de leur offrir un logement, ce qui est le minimum. Donc, il ne faut pas donner de faux espoirs. Et en même temps, il faut lancer un message pour les étrangers qui sont venus en France, qui ont aujourd'hui des papiers, qui sont des étrangers qui ont envie de s'intégrer au modèle républicain
les
français.
Les Roms, donc. Parce que je pense que les Roms, ils ne veulent que des papiers pour s'intégrer. Les autres aussi, d'ailleurs.
Aujourd'hui, ils sont dans une... Au bout de 3 mois, c'est une situation un peu particulière, parce que ils ne sont pas comme les autres ressortissants de l'Union européenne. Ça sera le cas normalement en 2011. Mais les Roms, au bout de 3 mois, sont en situation irrégulière sur le territoire national. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'aujourd'hui, on refonde notre modèle d'intégration. Quelque part, depuis des années, le modèle d'intégration des étrangers en France fonctionne mal. Il faut qu'il fonctionne mieux.
Et
il faut
et ça, c'est du social.
Pour qu'il fonctionne mieux. Oui, c'est du social aussi, mais c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Mais pour qu'il fonctionne mieux, il faut qu'en même temps, en face, il y ait ce message de fermeté, de dire on ne peut pas accueillir aujourd'hui tous les étrangers qui souhaitent rentrer sur le territoire national, parce que c'est d'abord porter un tort important à ceux qui sont en situation irrégulière. Pour moi, il y a une différence entre ceux qui sont en situation régulière, et là, on doit les accompagner, on doit les aider, on doit faire en sorte que des jeunes issus de l'immigration trouvent leur place dans notre société, trouvent un emploi, puissent rentrer dans l'ascenseur social, puissent s'intégrer dans l'école de la République, et ceux qui sont en situation irrégulière, et oui, là je le dis, ceux-là, ils ont vocation à être reconduits à la frontière.
Donc quand vous allez à la messe le dimanche, vous n'avez pas d'état d'âme, les critiques de l'Église catholique ne vous empêchent pas de...
Écoutez, de
vous sentir bon chrétien.
L'évêque de Nice a rédigé un message qui est conforme, je dirais, à l'esprit de la loi de la République. Aujourd'hui,
vous tenez aussi l'évêque de Nice ?
Il y a
le conseil général, la mairie, la députation et l'évêque ?
Non, j'ai pas cette prétention, mais il y a des voix divergentes. Chacun, et c'est normal que l'Église envoie ce message, mais il y a aussi une séparation de l'Église et de l'État, rappelons-le. Et je crois qu'aujourd'hui, personne ne peut et ne doit reprocher au gouvernement d'appliquer la loi de la République. On pourrait nous reprocher de transgresser les lois de la République, mais là, encore une fois, qu'on me dise où une loi de la République a été transgressée. On est dans le strict respect de la loi.
Éric Ciotti, on vous voit ministre dans le prochain gouvernement, délire ?
La question ne se pose pas, on ne me l'a pas posée,
et aussi, je
suis
posé.
Sûr qu'on ne me la posera pas, mais les personnes qui peuvent la poser.
Merci Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, qui était notre invité ce soir.